Investir est une sacrée aventure, un parcours semé d'embûches. Je suis Martin Ménez, entrepreneur, investisseur et cofondateur de Bivouac, une société qui propose des investissements locatifs clés en main, réservés à une poignée d'investisseurs sélectionnés chaque mois. Avec Immoral, je vous propose de rencontrer tout un tas de gens qui se sont lancés dans l'aventure de l'immobilier et qui ont expérimenté des galères d'une manière ou d'une autre. On va essayer ensemble de décortiquer leur expérience et d'en dégager une morale.
Salut Nicolas!
Salut Martin.
Comment vas-tu?
Très bien, et toi?
Ben super. Très heureux de te recevoir aujourd'hui chez nous par cette matinée d'hiver. Merci d'avoir fait le chemin. Je suis très heureux de te rencontrer parce que on se connaît pas, mais bien sûr j'ai entendu parler de toi et de tes aventures professionnelles avec Flatlooker. Tu vas nous en dire un peu plus dans un instant, mais juste avant, j'ai une question pour toi, Nicolas. Qu'est-ce que tu as prévu de faire quand tu seras à la retraite?
C'est une bonne question. Alors, on parlait juste avant le podcast. Moi, je viens de Marseille,
le sud
de la France. Et je m'imagine plutôt dans le sud de la France, aventure nautique, bateau, pêche. Je suis fan de pêche sous-marine. Donc, j'imagine bien là-dedans.
Pêche sous-marine.
Mais je n'imagine pas tout de suite à la retraite. Par contre, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire. J'ai que 32 ans, donc c'est un futur lointain.
Ok, c'est un sujet d'actualité en plus, parce que l'instant où on enregistre ce podcast, il y a la réforme de la retraite qui va être proposée par le gouvernement actuel. Tu dis pas tout de suite, c'est quand toi, alors, la retraite?
Voilà, là, a priori, selon le gouvernement, je suis à la moitié. On parle de 64 ans, 32 ans.
T'as fait la moitié du chemin?
Donc, j'ai fait la moitié du chemin. Donc, j'ai encore le temps pour revenir tout ça.
Ok, donc plein de pêche sous-marine, pêche au harpon, dans les calanques
dans
de Marseille.
Calanques. Alors attention, en zone protégée, les calanques, donc pas les calanques même, mais aux alentours.
Ok, bon, bah, alors, bon 32 ans encore de vie professionnelle bien remplie, mm-hmm. avant de se retirer au soleil pour aller pêcher 2-3 crustacés et poissons frais. Trop cool, ok. Mais est-ce que, avant de nous en dire plus sur l'immobilier et tout ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter?
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Nicolas Goyer, j'ai 32 ans, comme je te le disais, et donc je suis un des cofondateurs et le dirigeant de Flatlooker. J'ai lancé Flatlooker en 2016, donc ça fait 6 ans et demi maintenant, sur un principe qui est de permettre à des personnes qui n'habitent pas sur place de visiter et de louer en longue durée des logements à distance. Donc, comment c'est possible? En fait, c'est rendu possible grâce au fait que chacun des logements qu'on va louer sur Flatlooker est intégralement mappé. C'est-à-dire, pour chaque logement, on va proposer une visite virtuelle du bien, une vidéo commentée du logement, des parties communes, un plan détaillé côté des mesures de son, des mesures de luminosité, toutes les informations sur les charges, okay. Vraiment tout ce qu'il faut pour que les locataires, à distance, puissent se dire « Ok, ce logement m'intéresse, je veux le prendre, je suis capable de m'engager et le louer en ligne ». Et la suite du parcours, c'est dépôt, donc inscription, dépôt de dossier, signature de bail, préparation de ménagement, intégralement à distance. Donc, c'est très adapté aux gens qui n'habitent pas sur place. Donc, des expats, des étrangers qui n'habitent en France, des étudiants qui changent de ville, des jeunes actifs, qui sont en mobilité professionnelle. Bref, là, vraiment l'essentiel des locataires d'aujourd'hui. On se concentre principalement sur des logements de petite et moyenne surface meublés. L'investissement locatif meublé, elle va en poupe, et nous, on s'occupe majoritairement de logements meublés, hein. Plus de 70% des locations qu'on fait sont des locations meublées.
Oui, d'accord. Okay.
Et donc, ce concept de location 100% en ligne est très adapté à ça. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir à la fois beaucoup de données, d'informations, et également une rapidité sans précédent. On peut louer des logements extrêmement vite grâce à notre concept.
Donc, Flatlooker, c'est une agence de gestion locative. Nouvelle génération?
Exactement. Donc, on fait de la location et de la gestion locative.
Okay.
J'y reviendrai un petit peu sur la partie gestion locative. Okay. Effectivement, nouvelle génération parce que portée par la tech, ma volonté en lançant Flatlooker, c'était de digitaliser ce secteur de l'immobilier locatif. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on est une quinzaine de personnes sur la partie produit tech à développer tous les nouveaux services pour justement digitaliser ce métier qui est assez complexe. Et avant toute chose, en fait, on est quand même une boîte de services. Donc, notre métier, c'est d'accompagner les clients, locataires et propriétaires pour louer et gérer au mieux les logements, mais avec une forte composante tech qui permet d'avoir, on va dire, le meilleur des deux mondes entre la techno et l'humain.
Ok, alors vous êtes implanté où aujourd'hui? Vous pouvez opérer partout en France ou
Ouais, absolument. Alors, on est volontairement présent, quand je dis présent, c'est qu'on opère, donc on loue des logements dans les 30 plus grosses villes françaises. Donc,
Déjà.
Les grosses métropoles, leurs agglomérations. On va pas être présent dans des villes plus petites que ça. Néanmoins, encore une fois, c'est là où est le gros du marché, la location meublée, c'est dans ces villes-là. Je pense que
dans les grandes villes.
Je pense que vous aussi, c'est là où vous êtes probablement les plus présents. Et après, nos bureaux, là où on opère, sont eux situés à Paris. Sur place, donc dans les villes, on a des relais locaux, mais qui ne sont pas des salariés flat cookers, qui vont être des indépendants pour photos, état des lieux, ménage, artisans, diagnostic, voilà, donc des sociétés qui vont travailler avec nous pour opérer sur place en fonction des besoins des clients.
Donc c'est pas quelqu'un de chez toi qui ouvre la porte ?
Absolument pas. Non. Là, c'est des prestataires du coup qui sont sur place. Alors quand je dis prestataire, c'est pas pour être péjoratif, hein, c'est des gens qu'on a. Évidemment évaluer, qualifier, former, outiller avec les bons outils pour prendre le meilleur service possible à nos clients.
Trop bien. Et combien ça coûte ça, ce service de mise en location, de gestion
Alors, sur la partie mise en location, on a deux offres. Une offre standard qui est facturée au propriétaire bailleur 75% de moins de loyer, une offre premium qui est facturée 100% de moins de loyer. La différence se situe dans deux axes. Hein. Sur l'offre premium, on va avoir un accompagnement plus poussé avec la mise en avant sur tous les emplacements premium, que ce soit sur notre site ou sur les sites partenaires, genre Se Loger, Le Bon Coin, etc., tout en haut de liste. Et également un accompagnement pour les gens qui investissent dans le neuf, où on va s'occuper de la réception des travaux, par exemple, pour des gens qui ne sont pas sur place et qui ont...
Ah, vous faites la réception des travaux aussi pour le... D'accord.
Tout à fait. Okay. Donc ça sur l'offre premium. Et ensuite, la gestion locative, également deux offres. Une offre standard, on va dire, à 3,9% des encaissements. Ouais. Qui comprend, on va dire, un service global de gestion locative, partie financière, gestion des encaissements, décaissements, quittance de loyer, compte rendu de gestion, partie technique, gestion des interventions sur place, les travaux, menus réparations nécessaires pour la bonne vie du locataire dans son logement, et gestion plus administrative, gestion du départ du locataire, gestion de l'aide à, par exemple, aux APL pour les locataires, etc. Et à côté de ça, on a également aussi notre premium en gestion locative. On va s'occuper de la relation avec le syndic, on va s'occuper de la gestion des contentieux.
Okay.
En cas d'impayé, on va vraiment gérer l'impayé de A à Z sur la partie plus contentieuse avec...
Ça arrive souvent les impayés ?
Alors, la statistique française, c'est 3%.
Ouais, c'est ce que j'avais entendu.
C'est ça la statistique française.
Donc, sur tout le territoire français, en moyenne, sur l'ensemble des locataires, il y a 3% d'impayés.
Exactement. Okay. Donc, nous, on est en dessous de ça. Mais néanmoins, le risque zéro n'existe pas. Aujourd'hui, on a plus de 5 000 lots en gestion. Et donc, sur 5 000 lots en gestion, il y a forcément quelques impayés qui arrivent. C'est du boulot. La gestion d'impayés, c'est du boulot. Et donc, on a une personne dans l'entreprise chargée de contentieux qui s'occupe de la gestion des impayés, de recouvrer les sommes d'argent qui sont dues au propriétaire.
Ok, mais comment spécialiste des impayés qui ne fait que ça à longueur de journée.
Exactement. C'est très efficace. Hein. Il y a quelqu'un...
J'imagine, il y a des process bien rodés.
Qui fait ça, ça marche bien. Okay. Ça marche bien, c'est nécessaire. Et très souvent, l'impayé se résout à l'amiable. Il suffit d'expliquer, d'être assez ferme et on finit par résoudre ça.
Donc, c'est 2 ans en moyenne pour sortir un locataire ou
tu arrives
un peu plus tôt.
Si c'est pour le sortir avec un procès, etc., évidemment, c'est ça le temps. Mais la réalité, c'est que ça se passe très, très peu souvent. Je pense que ce type de procédure qui va jusqu'au bout, on a dû en avoir 4, 5, quelque chose comme ça. La plupart du temps, ça se résout avant. En fait, ça se résout soit au deuxième mois, on trouve un échéancier, on met quelque chose en place, ou après, on se met d'accord sur un départ du locataire à l'amiable. Il y a beaucoup de choses qui se négocient. En fait, le but, c'est de ne pas entrer dans une phase de contentieux, d'essayer de négocier ça à l'amiable et de faire en sorte d'avoir un départ le plus rapide possible du locataire si jamais il ne peut plus payer son loyer. Mmh. Et le mieux étant qu'il reste sur place et qu'il paye son loyer pour la bonne rentabilité de l'investissement.
Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. D'où l'intérêt aussi de se faire accompagner par un pro là-dessus, parce que ça demande un temps fou. Il faut savoir comment le prendre, comment faire pour réagir au plus vite aussi, et réagir de la bonne façon pour ne pas envenimer non plus la situation, garder le lien avec le locataire, réussir à le rattraper, quoi.
Absolument, c'est très important. Et c'est aussi important, en fait, d'être des intermédiaires pour ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, dans une phase de contentieux, c'est bien que ce ne soit pas le propriétaire en direct qui montre les dents. C'est important d'avoir quelqu'un intermédiaire, et même chez nous, que ce ne soit pas le gestionnaire. En fait, le gestionnaire, Il est là pour résoudre les pépins.
C'est pas le gestionnaire, c'est pas le contact classique.
Etc. Non, non. Là, en cas de contentieux, c'est une autre personne. En fait, c'est une personne qui est là pour montrer les dents, pour faire en sorte que les gens répondent à leurs responsabilités. Et c'est ça le but. Et donc, avoir un interlocuteur dédié, c'est très important pour cette raison-là.
Ouais, très intéressant. Hein, t'as raison.
Et voilà. Et donc, ça, du coup, c'est sur l'offre premium.
Premium, ok.
Où on va avoir un service de gestion de contentieux plus, okay. Plus poussé.
Premium, vous facturez combien ?
5,9.
Ah, c'est hyper compétitif quand même.
C'est très compétitif. Ah oui, honnêtement, sur la partie gestion locative, on est très compétitif.
Okay.
On est moins cher du marché hein, sur la gestion locative. On a une dernière offre qui est assez intéressante pour les investisseurs locatifs qui font de la colocation à la chambre, qui va être une offre packagée où on ne facture pas d'honoraires de location. Et on va facturer 10% pour le coût d'honoraires de gestion, mais relocation illimitée.
Ok.
Et donc ça, c'est assez intéressant pour des gens. En fait, on sait bien qu'en colocation à la chambre, il y a un turnover qui est important.
Ouais, tu le mesures, c'est quoi l'écart
Ouais. Globalement, les gens vont rester 12 mois.
12 mois.
Là où, en location meublée classique, on est plutôt sur 18 à 24 mois.
Ok. Voilà.
Donc, il y a,
y a plus de turnover, quasiment deux fois plus de turnover.
Ouais. Mais bon, c'est logique, hein, on loue des étudiants. Souvent, c'est à proximité d'école.
On loue plus cher, on a plus de rendement. Donc voilà, ça se compense en partie. Quoi.
Exactement. Mais donc, du coup, pour, on va dire, contrebalancer la rotation, bah on a une offre qui inclut les frais de location, mais qui est plus chère en gestion locative.
Ok, trop intéressant. Et alors, où est-ce que c'est quoi votre mission? Où est-ce que tu veux emmener cette où est-ce que vous voulez aller
Bien sûr. En fait, notre on est passé à un constat que quasiment tout le monde n'aime pas son agence immobilière. C'est assez simple. T'en parlais tout à l'heure, tu disais les agences immobilières sont souvent jugées comme étant trop chères.
Je crois qu'effectivement, c'est le deuxième métier le plus détesté de France, malheureusement, après le banquier. C'est con, parce que quand tu lances un projet immobilier, t'as forcément affaire à ces deux personnes-là. Alors, ami banquier, ami agent immobilier, si on dit ça, c'est que, moi-même, hein, moi, j'adore ce métier-là. Moi, si je faisais pas bivouac aujourd'hui, je suis très franc avec toi, je serais sûrement agent immobilier, parce que j'adore, ça me manque d'ailleurs d'aller visiter des trucs, d'aller sur le terrain, de travailler ce produit-là. Mais, et c'est aussi en partie pour ça que moi, je me suis lancé personnellement dans ce secteur, c'est que je pense qu'il y a matière à redorer le blason de la profession. Il y a d'ailleurs plein de très bons professionnels qui bossent très bien, mais qui pâtissent d'une image qui est diffusée par certains qui ont pas les bonnes pratiques peut-être et qui créent pas l'expérience suffisante pour que les clients soient satisfaits, quoi.
Absolument. Et autre constat, l'agent immobilier en transaction ou en location maison locative, c'est pas la même chose,
c'est
pas
le
même métier. Très souvent, c'est fait par les mêmes personnes ou par les mêmes agences, parce que c'est les mêmes clients à la fin, mais c'est pas le même métier et c'est pas les mêmes connaissances, les mêmes expertises. La transaction, c'est un métier de proximité, de négociation, et un bon agent immobilier en transaction va être un très bon négociateur, deal maker, en sorte que le deal se fasse et de défendre les intérêts des deux parties. C'est moins vrai en location et en gestion locative, c'est un métier qui est très technique. En fait, c'est presque plus un métier de policier, vous faire respecter la loi, appliquer la loi et faire en sorte que les parties respectent un set de règles.
Il y a beaucoup d'administratif, il faut être très rigoureux, il y a moins de côté négociation commerciale, c'est pas les mêmes skills, quoi.
Exactement. Et en fait, qui dit rigueur, process administratif à respecter, dit digitalisation. En fait, ça veut dire que tu peux automatiser, digitaliser ce métier et le rendre plus automatique. Et c'est notre constat de base, en fait. C'est de dire, sur la transaction, même si tu as beaucoup de néo-agences qui sont lancées avec une approche très digitale, l'humain...
Tu crois d'ailleurs à ces modèles-là,
toi ? Alors, oui, il y a des boîtes qui marchent bien, d'ailleurs, mais elles marchent bien parce que c'est des boîtes qui sont toujours drivées par l'humain. En fait, c'est pas des boîtes 100% tech qui vont... faire de la tech et rendre un produit tech. Non, c'est des boîtes de services drivées par l'humain avec une composante tech, mais qui n'explique pas le succès. Ce qui explique le succès, c'est leur positionnement marketing, c'est leur personne en interne, c'est pas leur tech. Là où en gestion locative, c'est différent. En fait, je pense qu'il fait le succès.
Ce que tu veux dire, c'est que tu n'as que des mauvais collaborateurs chez Flatlooker, c'est l'outil qui est génial.
Alors, absolument pas. Absolument pas. Et c'est même l'inverse. Au plus la boîte grossit, au plus, même chez nous, l'humain reste l'élément clé, l'élément le plus important. En fait, avoir un gestionnaire locatif qui a une bonne sensibilité humaine, une bonne connaissance des lois, des règles immobilières, va faire en sorte hein, que tes clients soient contents, qu'ils te recommandent.
C'est l'extra mile. L'extra mile. Voilà. Je te taquine parce que je souscris à 100% à ce que tu dis. Nous, chez Bivouac, on a exactement en partie hein, les mêmes problématiques et ce qu'on essaye de faire depuis nos débuts, c'est ça, c'est automatiser tout ce qui est automatisable. Pourquoi ? Pour permettre de mettre l'humain là où il a une vraie valeur ajoutée. Si on permet, tu vois, d'envoyer un certain nombre d'informations au client en amont de son call, de son audit, de sa visio qu'on va faire avec lui, bah, c'est réduire d'autant et permettre à nos conseillers d'apporter deux fois plus de valeur parce qu'ils vont avoir deux fois plus de temps pour parler des vrais sujets, d'accord. Des vrais sujets sur lesquels on va vraiment accompagner notre client. Quoi. J'imagine que chez vous, c'est pareil.
C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas besoin de passer beaucoup de temps pour faire une régularisation de charge ou faire une indexation de loyer. Ça, bah, voilà, on a une plateforme qui le fait tout seul. Par contre, tu as besoin de passer du temps pour comprendre, par exemple, un problème, un incident qu'il y a dans un logement qui est un peu spécifique et voilà. Nécessite une expertise.
Résoudre un incident voilà. Complexe, là, il faut creuser les méninges, il faut avoir quelqu'un de réactif, de bien formé, etc. Bien
calé. Exactement. Et du coup, pour en revenir aux collaborateurs chez Flatbooker, en fait, tous les gestionnaires locatifs, donc aujourd'hui, il y a une quinzaine de personnes qui sont des gestionnaires locatifs qui s'occupent des logements loués, okay. Logements occupés, en fait, ils sont tous issus de l'immobilier, ils ont tous une première expérience. Quasiment tous, 90% de première expérience avant en agence IMO classique, okay. Un peu gestionnaire locatif. Et en fait, du coup, ils connaissent le droit immobilier et ils ont déjà géré des situations de gestion locative un peu complexes. Donc en fait, on essaie d'apporter nos clients le meilleur des deux mondes. Le côté, bien. J'ai une vraie expertise immobilière, je sais de quoi je parle, je l'ai déjà fait chez Nexity pendant 5 ans ou 10 ans. Et en même temps, j'ai la meilleure tech qui me permet d'être hyper productif et de ne pas passer du temps sur des problèmes administratifs qui peuvent être automatisés.
Tu crées des surhommes, quoi, suroutillés.
Et dans une vision non pas d'hyper-productivité, mais d'hyper-satisfaction. Et c'est ça, voilà, on essaye comme ça de répondre aux problèmes que je te disais au début d'insatisfaction parce que c'est pas que des on-dit, en fait, des clients insatisfaits de leur gestionnaire locatif, c'est courant. Les avis en ligne des gestionnaires locatifs sont mauvais. C'est comme ça, en fait. Les gens sont généralement pas contents de leur gestionnaire locatif. Et donc, c'est ça la vision. La vision, c'est d'aller proposer un service de location et de gestion locative qui soit d'un haut niveau, un tarif attractif pour aller se substituer aux agences plus traditionnelles et finalement augmenter un niveau de service global en France, peut-être un jour à l'international, d'un gestionnaire locatif.
Bah, je vois que tu parles d'avis, vous avez une note de 4,1 sur Google avec près de 2000 avis qui sont laissés.
Est-ce qu'on a passé la barre des 2000 ou pas ?
Juste en dessous, il va falloir que ceux qui nous écoutent, qui sont clients chez Flatbooker, aillent de ce pas nous aider. Je suis sûr qu'il y en a. On est à 1247 avis à l'instant. Bientôt les 2000. Mais surtout 4,1 sur 2000 avis, c'est un tour de force. Bravo, ouais. C'est hyper inspirant, hyper aligné avec ce que tu dis. Je pense que la technologie n'est pas là pour remplacer l'humain, l'expertise, mais la suppléer et aider à chacun à passer du temps là où il a une vraie valeur ajoutée à apporter au client. Tu saurais dire parce qu'on parle d'automatisation, à quel pourcentage vous avez automatisé les tâches d'un gestionnaire
Ouais. Il y a certaines tâches qui sont intégralement automatisées. Le gestionnaire ne fait plus rien. Ouais. C'est des tâches, par exemple, notre comptabilité. Tu vois, très souvent, en gestion locative, dans les agences de gestion locative, tu as un service comptable qui s'occupe de pointer les paiements des locataires et de faire la compta pour savoir combien verser au propriétaire, combien verser au prestataire, combien verser à l'agence, etc. Nous, toute cette mécanique-là est intégralement codée. Donc, c'est notre équipe de développement qui a instruit les règles métiers comptables et qui a implémenté ça. Et grâce à un système d'API, on paye en flux tendu. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre euro d'un locataire qui arrive chez nous, il est reversé instantanément.
La journée même, exactement.
Okay. Et ça économise beaucoup de temps, évidemment, à nos équipes métiers. Et en même temps, ça fait des propriétaires qui sont payés au fil de l'eau. Et c'est hyper bien. Quand tu as un crédit en cours, généralement, les agences immobilières, ce qu'elles font, c'est qu'elles font une compta une fois par mois ou deux fois par mois. Et donc, tu es payé 20 ou 30 jours après le versement du locataire. Ben, nous, tu es payé instantanément. Donc, quand tu as un crédit en cours, tu peux le rembourser plus rapidement. Et c'est très précieux pour les propriétaires. Ça, c'est un axe. Deuxième axe, des actions métiers. Par exemple, on parlait de régule de charge, on parlait d'indexation de loyer. Ça, ces actions métiers, pareil, elles sont automatisées. Le gestionnaire, on va dire, vérifie. En quelques clics, il vérifie que ça a bien eu lieu, mais il ne va pas, le faire lui-même manuellement pour s'assurer que ce soit bien fait. C'est des choses qui sont automatisées sur notre logiciel métier. La partie gestion des incidents, parce qu'au fond, c'est ça le métier d'un gestionnaire, c'est de gérer des incidents.
Ouais, gérer l'imprévu, quoi.
Dans un logement, il y a une fuite d'eau, il y a le frigo qui ne marche plus, les tailles de plomb qui ne marchent plus, les rideaux pétés, enfin, que sais-je. Ça, c'est extrêmement processé. C'est-à-dire que c'est pas automatisé, mais c'est processé. Donc, une manière de déclarer, de suivre, de commander un devis, de suivre une intervention, de facturer un artisan, etc., qui met ça sur les rails, et donc qui permet d'avoir une vraie bonne productivité et un vrai bon suivi. Le propriétaire et le locataire, sur leur interface, ben, ils ont, tu vois, un Kanban qui leur dit étape par étape où en est mon incident, où est-ce que j'en suis, jusqu'à sa résolution. Et donc, ça a une transparence qui est très importante aussi pour nos clients. Ils savent qu'est-ce qui se passe dans mon logement, à quel moment. Ils ont un récap pour tous leurs échanges aussi sur leur interface. Et ça donne beaucoup de simplicité finalement pour la gestion locative courante.
Ouais, et tu parles d'être, tu as parlé tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié d'être aligné comme objectif final finalement la satisfaction client plus que la productivité. Et je crois que la satisfaction client, ça passe aussi beaucoup dans ce métier-là, beaucoup par de l'anticipation, être capable de, mais aussi parfois de transmettre simplement des informations qui sont simples. Exemple, où en est l'intervention de mon artisan, quand est-ce qu'elle est prévue, est-ce que ce sujet-là est en train d'être traité par vos équipes ou non. Voilà, et ça, je pense que c'est ça. J'imagine que ça contribue beaucoup à la satisfaction des clients.
C'est important, bien sûr. On reproche beaucoup aux agences immobilières un manque de transparence. Et ce manque de transparence...
Elles ne peuvent pas le fournir parce qu'elles ne sont pas outillées pour.
Exactement. C'est beaucoup une question d'outils. C'est-à-dire que finalement, les agents font souvent bien les choses. En fait, ils ont bien mandaté l'artisan. L'intervention est souvent en cours. Tout se passe souvent comme prévu. Mais simplement, le client ne le sait pas. Et donc, il va penser que l'agent ne s'en est pas occupé. Et donc, avec une
bonne... Donc, il va l'appeler, donc il va lui faire perdre du temps, donc il va exiger des comptes, voilà. Ce qui est légitime, entre guillemets, entre nous, mais...
Exactement. Et là, on a sorti, c'est très récent, ça fait un mois, on a sorti une app mobile pour nos clients propriétaires, donc qui récapitule tout ce qui se passe dans leur logement. Et ça, pareil, en fait, c'est un outil de transparence. Tu peux suivre tes paiements, tes interventions, tes mises en location. Et c'est hyper, hyper pratique. Nous, on est plutôt dans une optique de tout dire, même de trop dire, tu vois, d'envoyer des notifs, d'envoyer des SMS, d'envoyer des choses pour surcommuniquer et anticiper l'oubli ou le manque de communication qui pourrait arriver dans une agence classique.
Trop bien. Ok. Bah, écoute, passionnant et hyper inspirant. Je pense que, enfin, je vous suis, on se connaissait pas, Nicolas, mais je vous suis bien sûr depuis quelques années. Je crois que vous faites des choses dans la bonne direction. J'ai hâte de voir où ça va aller, mais. On va revenir un peu au début. Enfin, comment est-ce que tu es tombé là-dedans, toi? Tu t'es prédestiné à faire de la gestion locative? Tu t'es dit en classe de seconde qu'il fallait que tu fasses ça de ta vie? Comment on arrive dans ce métier de gestion locative?
Absolument pas. Non. Moi, en seconde, depuis même avant, je voulais être ingénieur en aéronautique. C'était mon...
Nickel, t'as visé juste là.
Et je suis tombé à l'extrême opposé, si on peut dire, hein, quasiment. Mais je voulais être ingénieur en aéronautique. Et donc, j'étais plutôt un bon élève, plutôt bon en maths. Donc, j'ai fait une classe prépa. Là, ça se passe bien. J'ai une école d'ingé. Et ensuite...
T'as fait quelle école?
J'ai fait polytechnique.
Okay.
Et ensuite, premier stage d'école d'ingé, d'assaut aviation. Voilà, je voulais aller...
Le parcours qui va bien.
D'accord. Et là, j'arrive chez Dassault Aviation et en fait, je me rends compte que ce métier n'est pas fait pour moi. C'était une très belle boîte,
hein,
parce que pas assez dynamique, pas des choses très amont, des centaines de personnes qui bossent sur le même projet. Donc, ça veut dire un projet très découpé et donc aussi sur des toutes petites tâches. Et en fait, moi, je voulais créer des choses. Je voulais faire l'avion. En fait, voilà, c'est ça mon but. Et donc, après ce stage, je me suis dit, OK, en fait, tu te plantes. Il faut que tu fasses des choses plus concrètes, que tu crées, que tu lances un projet, une entreprise, voilà, que tu aies la possibilité de faire. Mais bon, entre le dire et le faire, il y a un pas. Donc, je pense comme la moitié des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire en sortie d'école, je vais faire du conseil en stratégie. Donc là, j'ai fait 2 ans de conseil en stratégie, qui est une aventure incroyable. Vraiment, j'ai adoré.
Trop bien.
C'était chez Atekernet. Okay. J'ai rencontré des gens brillantissimes, des projets passionnants. Alors, un rythme très intense, hein, très soutenu, mais vraiment très, très intéressant. Et j'ai rencontré mon futur associé chez Atekernet. on est arrivé quasiment en même temps dans la boîte et avec des backgrounds assez similaires et pas mal d'atomes crochus au fur et à mesure. Et donc, au bout de deux ans et demi, je me sentais prêt. Voilà, j'avais eu le temps de réfléchir, j'avais eu le temps de découvrir un peu différentes industries via le conseil. Et donc, je savais que je voulais lancer une boîte tech dans l'immobilier. Donc, à ce moment-là, c'était déjà acté. Et
déjà, c'était dans l'immobilier, mais ouais, alors comment est-ce que c'était
plusieurs choses. Déjà, on va dire par plutôt un réseau amis, famille qui avait investi dans l'immobilier, qui avait forcément des problèmes sur leur investissement, sur leur capacité à trouver des logements ou à bien gérer des logements. Et aussi un constat un peu consultant sans froid de c'est un gros marché, c'est peu digitalisé, les acteurs actuels font
des trucs à faire.
Ouais. Donc c'était un peu on va dire à la fois une analyse de consultants externes et en même temps une vision des choses au quotidien par ma famille ou mes amis qui me disaient ok, c'est probablement un endroit où il faut aller et où une approche maligne et digitale peuvent changer les choses sur ce marché. Et quand on pense immobilier, on pense tout de suite transaction. Hein. C'est ça le métier d'agence immobilière, c'est la transaction.
Ouais, d'ailleurs, il y a beaucoup d'agences qui font de la gestion, oui. Une activité qui est peu rentable, si tu le fais peut-être à petite échelle, et qui est compliquée, honnêtement, qui demande une vraie expertise. Dans l'optique aussi de pouvoir demain pouvoir générer aussi des mandats de vente potentiels, parce que si on sait bien, si un propriétaire, je sais pas s'il y a une statistique d'ailleurs qu'on peut partager à ce titre-là, mais si un propriétaire est satisfait de son gestionnaire, il va avoir aussi tendance à vouloir vous mandater pour vendre.
C'est quasi systématique.
C'est quasi systématique. Ah ouais.
Si le client est satisfait, il va se tourner vers son gestionnaire. C'est normal. En fait, c'est lui son conseil en immobilier. C'est sûr. Son gestionnaire.
Vous faites la transaction d'ailleurs.
Ouais.
D'accord.
Okay. On l'a lancé, alors j'ai dit on va être après dans l'histoire, mais on l'a lancé, ça fait sa première année pleine 2022. Donc on a lancé début 2021. Okay. Donc on a une année 2021 qui est la première année de début et 2022 qui est la première année pleine en transaction.
Ok, trop bien.
Et sur un modèle qui, pour le coup, est peu digitalisé. Parce que c'est pas que je crois pas à la digitalisation, mais comme on disait au début, je crois plutôt au service humain en transaction. Mmh. Aux outils qui l'aident à être plus productif, mais c'est pas ça qui va faire la vraie force.
La vraie valeur ajoutée, le vrai.
Ouais, okay. Là où sur la gestion locative, c'est différent, c'est plus équilibré. Les deux ont vraiment beaucoup, beaucoup de poids, beaucoup d'importance.
Ok, très intéressant.
Et donc, du coup, voilà, là on est en 2016 et je regarde un peu ce marché en disant en fait là où il y a un vrai besoin de transformation et là où la tech peut apporter beaucoup de choses, c'est sur la location et sur la gestion locative. Et plus spécifiquement sur la location. Historiquement, Flat Booker, le concept de Flat Booker, c'est vraiment sur la location, sur la possibilité de digitaliser la location et de louer en ligne des logements. Et donc, c'est la première chose que je regarde. Et la première idée, c'est de dire, est-ce que si on donne accès à suffisamment d'informations à des locataires, ils vont pouvoir à distance s'engager et louer des logements en longue durée? Il y avait évidemment Airbnb à l'époque qui était déjà monstrueux, qui louait en courte, moyenne durée des logements à distance. On voyait des gens qui louaient sur Airbnb plusieurs mois des logements et je me suis dit, est-ce que c'est pas finalement quelque chose qui a de l'avenir de faire de la location en ligne en longue durée? Il y avait quelques boîtes étrangères qui avaient déjà lancé ça.
Ok. En France aussi?
En France, j'ai découvert après qu'il y avait des boîtes qui le faisaient, une boîte comme Morning Croissant qui le faisait, mais que j'ai découvert après.
C'est marrant parce que nous aussi on a lancé Bivouac et on a découvert, alors on était parmi les pionniers qui avaient la vision de standardiser ce marché, de créer une offre, packager, etc. Mais genre on a découvert quelques mois, peut-être 6 mois après avoir lancé la boîte, qu'il y avait un autre acteur qui s'appelait investissement-locatif.com. Ouais. Alors c'est pour te dire qu'on avait bien fait l'étude de marché parce qu'on n'avait même pas tapé investissement locatif dans Google. Je crois qu'on est parti d'un vrai besoin qu'on avait constaté autour de nous avant d'avoir regardé sur Google qu'est-ce qui se passait. On a peut-être dû regarder à l'époque, mais ouais, c'est marrant. Ça me fait
un peu la même chose, ouais. Et donc du coup sur ce concept-là, au début les gens bien sûr ils tournaient un peu pour des fous, vraiment. Ouais. Est-ce qu'on va être capable de louer un logement?
Ouais, en 2016 surtout.
2016, ouais. Est-ce que de sentir le logement, de voir à quoi il ressemble, le bruit autour, etc. Et du coup ça a été vraiment une mission. Ça a été ok, de quoi as-tu besoin ? Quand tu vas visiter un logement, de quoi as-tu besoin ? Alors, j'ai besoin de savoir le bruit, est-ce que c'est bruyant ou pas ? Et donc, du coup, on s'est dit, OK, ben, ça, on va mesurer. On va ouvrir les fenêtres, on va mesurer le bruit, on va fermer les fenêtres, on va mesurer le bruit. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir ? J'ai besoin de savoir la luminosité. OK, ben, on va regarder le vis-à-vis, la distance, le soleil, comment il passe, etc. OK, j'ai besoin de savoir l'agencement des pièces, précisément.
Okay, on va faire un plan. Donc ça, tu le donnes pour toutes les mises en location ?
Pour chacun, je vous encourage à aller voir le site, hein, mais ouais. Pour chacun des logements, on a un mapping qui est extraordinaire, vraiment qui est complet, chacune des pièces, etc. Et en plus du mapping, on apporte aussi un accompagnement humain. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un agent qui va sur place et qui te prend par la main, qui te parle, qui dit, voilà, là, j'arrive dans la première pièce, j'ai ce placard, je peux ranger telle et telle chose. Voilà, qui fait en fait... Le job d'un agent immobilier de visite, voilà, qui va visiter l'appartement pour toi et qui va te dire ce que lui voit et ce qu'il ressent grâce à cette vidéo. Et en fait, notre conviction, c'est que c'est beaucoup plus fort même qu'une visite classique, parce que tu peux la revoir plusieurs fois, parce que tu as des mesures, parce que tu peux aller dans le détail de la visite virtuelle, voir chacun des angles, etc. Et en fait, c'est pas 10 ou 15 ou 20 minutes de visite que tu vas faire, c'est potentiellement des heures, parce que tu vas pouvoir revoir ça vraiment de, en long en large.
Au lieu d'un bon film le soir, tu regardes ta visite virtuelle.
Est-ce que Nicolas, tu Netflix.
Il a abandonné son Netflix et regarde des apparts toute la longueur de soirée.
Et donc, c'était ça notre premier frein, c'était de montrer aux gens qu'on pouvait louer à distance des logements. Et donc, voilà, on a eu nos premiers clients à les convaincre. Et donc, le premier logement qu'on a loué en ligne sur Flatbooker, c'était un logement qui appartenait à mon frère. Et donc, on a fait des jolies photos, etc. Une vidéo, je me rappelle, avec un bon appareil photo. Voilà, on fait une jolie vidéo. Et on poste l'annonce sur Le Bon Coin. Et la personne, les gens nous contactent, on leur envoie les photos, les vidéos et tout. On a dit, OK, est-ce que ça vous plaît ? Et là, on trouve une locataire de Toulouse qui dit, voilà, moi, OK, ça me plaît, je suis prêt, je veux le logement.
Je signe le bail avant de l'avoir vu.
OK, on voit ton dossier, donc on voit le dossier. OK, c'est bien, le dossier correspond, etc. Et on dit, voilà, écoute, très bien, voilà le modèle de bail, signe-le, vas-y, très bien. Et du coup, la nana est arrivée de Toulouse et elle a fait son état des lieux en arrivant de Toulouse directement. Et ça a été vraiment la première location sur le concept Flatbooker. C'est comme ça que ça s'est passé. Et après, en ayant vu que ça a marché une fois, j'ai dit, OK, en fait, maintenant, il faut qu'on package tout ça de manière très, très sexy pour créer de la confiance, que les gens soient capables de s'engager du coup en ligne. Et donc, on a monté le site Flatbooker sur cette base-là. Et donc, tout notre enjeu, c'est pour ça que sur le site, on retrouve des milliers d'appartements. C'est aussi pour créer de la confiance, c'est pour ça que les avis en ligne sont très contents, sont très importants. Il faut que les gens aient confiance pour pouvoir s'engager à distance et louer des logements.
Trop bien. OK. Génial. Donc, de l'aviation à la gestion des fuites d'eau et des cases de vaisselle, je sais pas, lors des états des lieux. OK, trop cool. Tu l'as fait, toi, au début, ouais, j'imagine. Vous avez mis en loc les premiers apparts.
Ouais, plusieurs mois avant d'avoir nos premiers collaborateurs qui nous rejoignent, ça a été des photos d'appart, ça a été des états des lieux, ça a été de la gestion locative, de la gestion de paiement, de la gestion d'incidents, des fenêtres cassées, etc. Ça a été le quotidien. Forcément, au début, c'est hyper important de pratiquer. Okay. Et en fait, il faut pour comprendre les problématiques et arriver à comprendre des problèmes et les automatiser. Ça fait partie du job. Et même encore aujourd'hui, hein, alors je ne fais plus l'état des lieux, je ne fais plus photos, etc. Mais des problématiques de gestion, je suis confronté au quotidien et c'est naturel et c'est sain si on veut comprendre et continuer à automatiser et à processer. Alors, non, il y a des équipes qui font, tu as des product managers, tu as des chefs de projet, etc., dont c'est le métier, mais c'est notre force. Et donc, il faut continuer à travailler là-dessus.
Et alors toi, hormis bien sûr que c'est ton métier d'être dirigeant d'une boîte qui gère plus de 5000 apparts dans plus de 30 villes en France, c'est quoi toi ton rapport à l'immobilier ? T'as acheté à côté, t'as investi, qu'est-ce que t'as fait ?
J'ai acheté en résidence principale pour le moment et investissement à Paris, investissement des projets en cours, mais rien encore de concrétiser pour le moment.
Tu regardes, tu chasses, tu suis les jeux.
Ouais. Et après, alors, autour de moi, que ce soit un cercle familial ou ami, bien sûr, de gens accompagnés.
T'as investi dans d'autres choses, d'autres actifs. T'es un t'es un crypto fan, tu alors, t'es investi dans des caves, qu'est-ce que...
Non, pas spécialement. Pas spécialement. Pour le moment, je vais dire mon plus gros actif, c'est ma boîte, en fait.
Ouais, okay.
Et c'est là où j'investis le plus de choses.
De ton temps, d'énergie.
De temps, d'énergie, ouais. Etc. C'est l'essentiel de mon investissement finalement.
Mais est-ce que Nicolas, tu penses à ta retraite et ces vieux jours où tu vas aller chasser au harpon, il faut que tu prépares ta retraite. Non, mais je crois que c'est pas un mauvais investissement, surtout à la vitesse à laquelle vous développez chez Flatlooker. J'en suis sûr. C'est une très belle aventure encore en devenir, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Tu l'as dit, le marché est énorme.
Le marché est colossal, ouais.
Et avec cette offre-là, moi, j'y crois beaucoup, honnêtement. Trop bien. OK, donc, résidence principale, c'est déjà un super pas. Trop cool. Et donc, les projets auxquels tu réfléchis aujourd'hui, si c'est pas indiscret, c'est quoi? C'est de l'investissement locatif classique ou non?
T'as envie de faire... Oui, bien sûr. C'est en fait ce que je connais, finalement, et serait naturel d'investir dans des choses que...
Ouais, toi, t'as toutes les statistiques de vacances locatives.
Je te les ai partagées, d'ailleurs.
Ouais, j'en ai, bien sûr. C'est quoi la ville, alors, où ça marche le mieux, s'il y a de faire un classement?
On parlait de Marseille. Marseille. Ouais. Et c'est assez intéressant, les statistiques à Marseille, que ce soit en termes de vacances locatives, en termes de loyers. Après, bon, les prix augmentent. Peut-être que la rente baisse, mais, c'est intéressant. En tout cas, c'est une ville qui est dynamique, et qui me paraît être une bonne opportunité. Alors, après, peut-être que, encore une fois, je suis biaisé parce que je connais et parce que j'aurais peut-être plus de facilité à investir là-bas parce que je suis né et j'ai grandi là-bas. Mais ça fait partie, je pense, des belles opportunités.
Ok, trop bien. C'est quoi, par exemple, je ne sais pas si tu as la stat, mais la vacance locative moyenne à Marseille, ça se compte en...
Je la connais pas.
Alors, ça se compte en jour.
Ce que je peux te dire, nous, c'est notre portefeuille. Alors, on a un portefeuille qui est...
70% meublé, encore une fois.
Oui, voilà, ouais. 70% meublé et on a un bel ancrage en région parisienne.
Okay.
Je crois que c'est 40-45% de nos logements sont en région parisienne, mais on a une statistique, donc un temps médian de recherche de locataires qui est, on va dire, entre 10 et 14 jours. Ça dépend un peu des zones, mais
c'est hyper top. Ouais.
C'est très très court. Une vacance locative faible, parce que finalement, ton locataire, il part à peu près tous les 18 à 24 mois, et tous les 18 à 24 mois, t'as ce temps-là.
Sachant qu'en fait, si tu le trouves en 14 jours, c'est-à-dire que tu n'as pas de vacances locatives quasiment, parce que toi, tu sais un mois en location meublée ou trois mois en location nue que le locataire part, tu le trouves 10-15 jours avant.
Après, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on est presque plus là à prêcher d'avoir un petit peu de vacances, en fait. À la relocation, on a eu trop de surprises en faisant des locations à touche-touche. Donc, avoir des locataires qui rentrent le lendemain d'une sortie du locataire précédent, et en fait tu découvres que le mec, tu vois, en fait il t'avait caché des choses derrière le canapé, il avait une philo ou quelque chose que tu vois finalement quel état des lieux. Bon, vaut mieux prévoir un petit battement, et c'est même plus rentable pour le propriétaire, c'est-à-dire que si tu ne prévois pas ça, le locataire suivant peut ne pas rester dans son logement, et finalement être plus dans l'embarras qu'autre chose. Donc autant prévoir un petit peu de vacances, faire les travaux, la maintenance nécessaire, et après avoir des locataires satisfaits.
Bon, alors, Nicolas, si on est aussi réunis aujourd'hui, c'est pour évoquer également la réalité d'investir dans l'immobilier. C'est des beaux projets, certes, mais c'est aussi parfois des galères. Est-ce que toi, tu commences à investir, tu vas bientôt investir pour toi dans les prochains mois, je te le souhaite en tout cas, donc tu n'en as peut-être pas connu encore à titre personnel, mais bien sûr de par ton métier, vous avez des centaines, voire des milliers de clients qui ont réalisé déjà des projets immobiliers, donc peut-être que tu as dû en voir passer des galères ou également par peut-être les personnes de ton entourage. Est-ce que tu as des... c'est quoi les plus belles galères que tu as envie peut-être de nous partager aujourd'hui? Tu es venu peut-être avec un top 3 des pires mises en location, des pires gestions. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui?
Bien sûr, alors effectivement, en fait, en gérant aujourd'hui plus de 5000 logements pour plus de 4000 propriétaires, il y a tous les jours quasiment des pépins, des galères qui apparaissent. La gestion locative, c'est finalement un métier où on a besoin de nous quand il y a un pépin. Et en étant dirigeant de cette structure, ce qui me remonte naturellement, c'est les choses les plus graves, les plus chaudes, où il y a besoin de prendre une décision et de trancher.
J'imagine qu'on vient pas te voir pour une petite fuite d'eau
exactement,
ou un Une fenêtre cassée, quoi.
Y a quelques galères qu'on a eues qui sont assez remarquables. Je pense que la chose la plus chaude que j'ai vue.
Belle galère, alors.
C'est l'histoire de Rogata. En 2019, il me semble que c'était pré-Covid. Et donc, c'est un petit immeuble, un immeuble néanmoins, qui appartient à quelqu'un de ma famille, qui a été refait intégralement.
Okay. Refait, c'est où?
C'est dans le 20e.
Ok, à Paris.
Donc les logements neufs, mis en location, etc., ça se passe très bien. Et il y a un logement sur lequel il y a un départ, et on le reloue, et en le relouant, en fait, on le reloue à quelqu'un qui était déjà locataire chez nous. D'accord. coup, c'était une locataire qui était...
Tu veux dire, déjà locataire chez Flatlooker?
Chez Flatlooker, oui.
Ok.
Et donc, c'est une locataire qui réglait bien son loyer, qu'on n'avait pas eu de problème. Donc, le meilleur des dossiers, finalement, c'est
trop bien.
Parce qu'on connaissait, on avait un bon historique de paiement précédent, et donc très confiant de la placer dans ce logement-là. Et au bout de quelques semaines, plainte du voisinage. Plainte du voisinage.
Ok.
Il y a des bruits étranges, des cris. On sait trop ce qui se passe dans ce logement.
Là, je commence à flipper parce que j'ai vu la série sur Netflix Jeffrey Dahmer récemment, le grand psychopathe américain qui a tué près de 20 personnes dans son petit appart studio. J'espère qu'on va pas en arriver là.
Non. Mais néanmoins des cris.
Ouais.
Et donc on appelle la locataire. On demande est-ce que tout va bien. Elle dit non, j'avais une amie qui était là ce week-end, on a fait une soirée, ça se reproduira plus, etc. Tout va bien,
okay.
On a fait la prévenir, etc. Et deux jours après, à nouveau, le voisin d'à côté qui se plaint, il y a des cris, ça ne peut pas, il commence à être explicite, hein, c'est pas des cris, c'est un rapport sexuel, en fait, on entend, il y a quelque chose qui se passe dans ce logement, et là, on est un peu gêné. On se dit, en fait, bon, c'est intime. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui se passe? Et là, le voisin dit, non, mais on ne connaît pas, en fait. C'est pas des rapports. Je pense que la nana fait des passes, en fait.
C'était quoi? C'était à 14h de l'après-midi, forcément, aussi, ça éveille les soucis.
En tout cas, c'était fréquent. Il y avait des gens différents.
D'accord.
Donc, bon, un peu embêté, parce que la nana, voilà, on avait des bonnes relations avec elle, on la connaissait, donc on l'appelle, on dit, bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle revient à l'histoire, non, mais moi, je suis pas là, c'est une amie qui est chez moi en ce moment, je vais voir avec elle, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, on se dit, tiens, c'est étrange, en fait, c'est étrange, parce que normalement, quand tu es locataire, tu habites ton logement, tu es là sur place, tu t'occupes, pour nous, elle était étudiante en université à Paris, pas de raison qu'elle soit pas sur place, donc on commence à avoir des doutes, et là, l'histoire dérape à ce moment-là, en fait, l'histoire dérape à ce moment-là, okay. Où dans la nuit, je crois que c'était une nuit du jeudi au vendredi, en fait, il y a des mecs qui débarquent dans la résidence, dans l'appart, et globalement qui viennent frapper en fait les deux nanas. Il y a deux nanas dans la chambre.
Ok.
Et des mecs qui débarquent et qui viennent tabasser les nanas. Le voisin,
ouais, là, ça va loin,
s'interpose
d'accord.
Au milieu, qui se prend une castagne, etc. Mais les mecs finissent par partir et globalement, l'appart explosait avec du sang. Il y avait vraiment
ouais, c'est loin, c'est loin. Ouais, ok.
Sans dessus dessous et qui effectivement en fait était un appartement dans lequel il y avait des passes et les mecs étaient probablement les Macs des deux nanas. Et le voisin, en fait, plutôt courageux, hein, donc s'est interposé. Les mecs sont partis et les nanas, en fait, ont déguerpi. Les nanas ont déguerpi et elles ont pris un taxi, on ne les a plus jamais revus.
Ils n'ont pas pris la caution.
Ils sont partis. plus de nouvelles des nanas.
D'accord.
Et nous, on est avec elles en appartement avec du sang, des mecs qui sont débarqués. On se dit, bah, ils peuvent peut-être revenir, etc. Donc, on prévient la police. Et le voisin locataire va déposer plainte également. On prévient la police vient. Ils mettent leur.
Wow.
On s'appelle. Mais c'est
scène de crime, bandeau. Ouais.
Scène de crime.
Ouais. NCIS.
en travers de la porte.
Okay.
Et scène de crime. Donc le logement était du coup inaccessible. Hein. Il y avait encore des investigations, des choses à aller voir dans le logement. Et donc,
là, tu as un enquêteur qui a débarqué, qui a pris des empreintes, des choses comme ça.
On se disait plusieurs sujets. On s'est dit, qu'est-ce que les nanas sont devenues? Est-ce qu'elles vont bien? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, elles sont parties, mais c'est pas dans quelles conditions elles sont parties.
Exactement. Le voisin et le voisinage, donc parce que c'est un immeuble où il y avait peut-être, je sais pas, 8 ou 10 logements, inquiets. Est-ce que les gens vont revenir? Est-ce qu'on est en sécurité? Et du point de vue investisseur, ok, ce logement, combien de temps il va être
bloqué?
Parce qu'il y a une procédure, on ne sait pas combien de temps ça dure, etc.
Est-ce qu'il ne faut pas changer toutes les clés?
Exactement.
Est-ce que chose que vous avez fait peut-être ou...
Alors, en fait, ça s'est résolu hyper vite. C'était incroyable. Donc, les enquêteurs nous ont demandé de venir à la police la semaine suivante. Voilà, venez déposer votre plainte, votre dossier, dites-nous exactement ce qui est passé. Donc, les échanges de mails, les échanges téléphoniques, ce qu'on a fait, etc. Et donc, ils ont tout noté et tout. Et il n'y avait plus personne, en fait, sur place. Ni la locataire injoignable, les Mac ou les mecs...
Bien sûr, ouais, tu ne sais pas où ils sont. Ouais.
Et ils nous ont dit, écoutez, pour nous, on peut clôturer l'affaire.
Mais hein, t'as un bail? T'as toujours un bail qui est en cours?
Bien sûr, il y a un bail qui court.
Comment tu fais pour...
C'est là où c'est pas évident. T'as un bail qui court,
ouais.
Et en même temps, t'es le locataire qui a disparu dans la nature. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait, on a récupéré les clés.
Okay.
Première chose, changer les serrures et mis l'appartement en état. Il y avait des affaires. Une valise avec des affaires, hein. Et on a écrit, donc envoyé le plus de messages possible au numéro qu'on avait en disant voilà, soit vous voulez continuer à occuper le logement, vous nous dites, soit en fait vous souhaitez partir et vous nous dites aussi. Et on n'a jamais eu aucune nouvelle. Donc en fait, disparu dans la nature. Alors qu'on avait un vrai dossier locatif, des choses, etc., une histoire précédente, et donc il s'avère qu'en fait, on ne sait pas, mais a priori, la nana et son dossier n'étaient pas les mêmes personnes, en fait. Même si elles se ressemblaient, enfin, tu vois, sur la coïncidence et tout, ça,
okay.
C'était trompeur. Et donc, finalement, on a remis l'appartement en location. Donc, on n'a plus de nouvelles, on a remis l'appartement en location, et plus personne ne s'est repointé dans ces logements-là. Et donc, l'histoire est. On est passé à autre chose. Mais.
L'état des lieux le plus rocambolesque et accompagné de forces de l'ordre, j'en ai jamais fait sur
un des. Ça, c'était, je pense, un des événements les plus chauds, si je puis dire, qui a eu lieu.
J'espère que c'est bien terminé pour les personnes en question.
Effectivement, et a priori, alors, ce que nous a dit le locataire, ils ont tout gagné, donc ils ont pris un taxi à l'aéroport et partaient, quoi. Et
d'accord.
Après, elle serait rentrée, je ne sais pas de quel pays elle venait, mais elle serait rentrée.
Okay.
C'est ce que j'espère, mais donc voilà, donc d'un point de vue, on va dire, investisseur-bailleur, c'est des situations extrêmement compliquées, parce que t'as de l'humain, t'as des situations de vie dramatiques pour des personnes, et en plus, t'as très peu d'informations, en fait, tu sais pas vraiment qui sont ces personnes, quel est leur passé, leur futur, c'est très très complexe.
Ouais, et il faut, ça aurait pu mal tourner, partir beaucoup plus loin.
Et
d'accord. Et est-ce que le fait qu'il y ait une procédure, la police, ça veut dire quelque chose par rapport à la résiliation du bail ou autre? Non.
On pense que oui, et ça a été un peu le pari. C'est-à-dire que je pense que très très juridiquement, il aurait fallu avoir un préavis de départ qui soit déposé, attendre un mois, faire l'état des lieux de sortie, etc. Maintenant, la personne en fait n'existe pas. C'est ça le constat, c'est-à-dire que probablement que la personne et la personne de sa pièce d'identité ne sont pas les mêmes, et donc qu'est-ce que vaut finalement un préavis d'une personne qui n'est pas la vraie locataire? Ça vaut pas grand-chose. Et donc du coup, ça a été aussi un peu un des conseils des policiers, en disant voilà, pour nous, l'appartement, enfin, considérer en tout cas que l'appartement sera vacant. Et si jamais la personne était revenue, ben là on aurait eu des difficultés, là on aurait dû la reloger, trouver une solution, etc., mais la personne n'est jamais revenue.
Comme quoi, c'est pas une science exacte. Malheureusement, on a beau mettre tout en place, il y a toujours des surprises, mais c'est aussi ça d'investir dans l'immobilier. Il y a pas de gain sans risque également. Et le risque zéro n'existe pas. Même sur le profiling des locataires, t'avais quelqu'un qui payait,
c'était assez intéressant, c'est-à-dire que on te dit, les assurances en loyer impayé, elles te disent que des locataires qui ont des bons historiques de paiement sont les meilleurs locataires.
Donc, bien sûr.
Par exemple, si tu as un locataire qui a 6 mois d'historique de bon paiement, l'assurance Airbnb va tout de suite le prendre. Il va même pas regarder son dossier. Et donc,
à ce point-là ? Ah ouais, ouais. Okay.
Et donc, ça veut dire qu'un historique de paiement vaut beaucoup plus finalement qu'un dossier. C'est une vraie preuve. Et donc, pour nous, on n'avait aucun doute à la fois sur le paiement, mais aussi sur la
tenue de l'appartement.
Finalement, là, c'est même pas une erreur, c'est improbable.
Il y a des choses qu'on peut pas maîtriser, auxquelles on a beau tout mettre en place, tout mettre en œuvre. Ce qui compte aussi, c'est ça, c'est de tout mettre en œuvre. Vous l'avez fait, vous avez profilé le locataire, vous avez intervenu aussi rapidement, faire en sorte qu'il y a eu les bons réflexes, déposer la plainte, etc. Et finalement, aujourd'hui, l'appartement, il n'a pas été inoccupé, j'imagine, pendant 14 mois.
Ça a été aussi un coup de chance d'avoir locataire à côté, qui était assez spécial parce que en même temps il avait, je pense, un côté il aimait bien gérer les choses pour les autres et donc, du coup c'est un peu un excès de confiance ou un excès d'intervention.
Oui, il a pas fait profil bas, il a intervenu, il a pris les devants.
Là où 99% des gens ont fait profil bas dans leur situation, lui non, on n'a pas fait ça. Et donc c'est aussi ce qui a permis à la situation de se dénouer plus vite. Ça aurait probablement duré plus longtemps sans ce voisin.
Écoute, merci. C'est cette anecdote peu commune. L'état des lieux exercé par les forces de l'ordre. On me l'avait jamais fait, celle-là. J'espère que c'est quand même pas toutes les locations flat ou cœur qui finissent comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? C'est qu'effectivement, il faut une preuve de paiement vaut plus que n'importe quoi, mais même malgré tout ça, c'est pas toujours science infuse, ça ne prédit pas, comme tu l'as dit, le futur exactement. Donc voilà, mais et puis réagir vite aussi, c'est important pour pas laisser s'envenimer les situations. Merci Nicolas pour toutes ces réponses à mes questions et ce partage de d'anecdotes, faut le dire, un peu olé olé, sorti du chapeau. Avant de se quitter, j'ai 5 petites dernières questions pour toi, brièvement comme ça. Toi, t'es plutôt Lille ou Marseille ?
Marseille.
On l'avait compris de par ton passif.
Voilà, pas de doute.
Non, la bière et le plat pays, c'est pas pour toi.
C'est pour le Ricard et la mer.
Ah, tu parles, tu prêches un convaincu. Plutôt studio ou colocation ?
Plutôt coloc. J'ai fait plusieurs colocs et...
Toi, en tant que locataire ?
Ouais.
Ok.
C'est une vie qui est très agréable.
Et toi, en tant qu'investisseur ?
En tant qu'investisseur, je t'aurais dit coloc il y a un an ou deux. Maintenant, je dirais plutôt studio.
Pourquoi ?
Parce que finalement, la colocation, c'est pas les mêmes... ça peut être très bien, ça peut être rentable, ça peut être des beaux projets d'investissement... Mais à côté de ça, il y a quand même plus de dégradation, il y a plus de rotation, il y a plus de vacances locatives, il y a plus de dépendance aux universités et aux types de locataires à côté. C'est plus stressant, je pense, qu'une location doublée, studio plus traditionnelle, mais en même temps, plus rentable. Donc, c'est encore une fois un peu comme les produits financiers, plus de risques, plus de rentabilité.
Voilà, chacun son choix. En fonction de sa stratégie, ok. Et alors, t'es plutôt quartier périphérique, barre d'immeubles, méga rendement, ou bien belle pierre, hyper chère, mais hyper bien placée?
Alors, je dirais pour des premiers investissements, plutôt rendement.
D'accord.
Parce que pas une stratégie patrimoniale, plutôt une stratégie de rentabilité, donc ça va plutôt être ça.
Commencer à développer son patrimoine, ouais. Ok. Si on remontait dans le temps, toi, qu'est-ce que tu dirais à Nicolas 10 ans en arrière qui fait ce métier, voilà. Alors, pardon, ça a commencé il y a en 2016, donc c'est pas exactement 10 ans en arrière, mais quel conseil t'aurais envie de donner? Tu commencerais par faire quoi, en tant que toi, gestionnaire locatif?
Ouais, je dirais la clé pour bien réussir dans n'importe quel métier, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Et donc en fait, c'est de passer le plus de temps possible, le plus d'énergie à s'entourer des bonnes personnes. C'est ça la clé, je trouve, de la réussite pour tous les métiers. Et c'est très vrai locatif parce que ça reste un métier de service. Et donc, il faut les bons gestionnaires, il faut les bons interlocuteurs, les bonnes personnes autour de nous.
Et puis enfin, pour terminer, Si jamais on te donnait là 10 millions d'euros pour acheter n'importe quel projet immobilier, que de l'immobilier, tu vas pas me sortir des cryptos de je ne sais où. T'achèterais quoi, toi, où ça et puis pourquoi?
Alors, je pense que j'ai une stratégie diversifiée.
Okay.
Je pense que je ferais trois types de d'investissement. Je ferais du résidentiel peu risqué, par exemple voilà, des vieilles pierres à Paris. Du résidentiel plus risqué, de la coloc ou des studios en province avec un meilleur rendement. Et je pense que je ferai quand même un peu de bureau. Pour moi, on est dans une phase post-Covid. Les bureaux vont reprendre la rentabilité de l'occupation et j'en ferai aussi.
Les bureaux peut-être plus prime, et mieux placés,
ouais,
central, ouais, proche des transports, etc. Ouais, on le voit à Paris. Là, on enregistre, nous, on est actuellement dans le bureau de bivouac dans le premier arrondissement de Paris. Je me rappelle avoir pris possession ici de ces bureaux-là avant Covid. Il y avait déjà une sacrée tension parce que bon, on est en plein centre de Paris, je crois que ça s'est aggravé, quoi. Aggravé, pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui se sont rendues compte après Covid qu'on mettait en partie des collaborateurs en télétravail, on avait peut-être moins besoin de grandes surfaces en périphérie, en banlieue, et qui a préféré un plus petit espace en centre-ville, mieux connecté, mieux relié au transport.
Exactement, avec plus de services.
Exactement, plus de services. Et je crois que ouais, il y a du potentiel sur ce genre d'actifs, alors qu'il y a déjà un marché déjà bien inoccupé, les rendements sont faibles. On est peut-être même à des rendements négatifs à vu les taux d'intérêt actuels. Mais d'un point de vue patrimonial, je pense qu'il y a quelque chose à faire, ouais, c'est sûr. Okay. Alors c'est marrant parce que moi je pose cette question depuis quelques épisodes que j'enregistre maintenant, mais j'attends encore la personne qui va me répondre. Moi je m'achète une villa à Cannes ou j'en sais rien, un chalet à la montagne. Vous êtes très rationnel dans votre approche de l'investissement immobilier, très financier. Mais c'est bien. Alors finalement, tu commences, mais je crois que tu as de bonnes idées pour préparer ta retraite et ta pêche sous-marine pour tes vieux jours. Et t'as raison. T'as raison. Nicolas, c'est le moment de se quitter. Merci pour tous ces partages d'expérience et puis sur de ta vision aussi du métier de la gestion locative, de votre façon de faire. J'ai adoré cette interview. Je dois dire que moi, je suis vraiment aligné avec ce que vous essayez de faire chez Flatlooker. Je vous incite à vous, auditeurs, d'aller découvrir leur offre. C'est Flat, comme en anglais, FLAT, Looker, LOOKER.com. Et n'hésitez pas. Où est-ce qu'on te contacte, d'ailleurs, sinon sur le site.
Ouais. C'est fait pour. On présente toute notre offre de services, il y a des parcours dédiés en fonction de votre besoin. Donc, le plus simple, c'est d'utiliser les parcours du site.
Parfait. Mais en tout cas, non, bravo pour tout ce que vous avez fait. Et c'est, je trouve aussi votre vision hyper inspirante parce que la gestion locative, je suis bien passé pour savoir combien c'est complexe. Et je suis aussi, de ton avis, ça peut être... digitaliser, améliorer, on peut créer vraiment une expérience aussi client vraiment agréable malgré toute la complexité de ce métier. Ça passe par un outillage, de l'automatisation, se poser toutes ces bonnes questions là. Et je trouve ça hyper excitant de voir qu'il y a des acteurs comme vous qui faites ça et qui faites ça avec brio a priori vu le nombre d'investisseurs que vous accompagnez à l'heure actuelle. Merci Nico et puis à la prochaine.
Merci Martin.
À bientôt.
Ciao.
Bravo, vous avez écouté cet épisode d'Immoral jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous et de me mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui m'aide le plus à ressortir dans les classements. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez l'envie, vous aussi, de vous lancer dans l'investissement immobilier sans galérer, y passer trop de temps ou vous arracher les cheveux sur le choix du régime fiscal, le suivi des travaux et j'en passe, rendez-vous sur notre site internet www.bivouac.com, BEVOUAC, afin de définir votre projet et commencer à vous faire accompagner par nos équipes. D'ici là, bons investissements et à très bientôt.